On continue l'émission avec Mme Julie Castonguay du Centre collégial d'expertise en gérontologie. Bonjour, Mme Castonguay.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ben, très bien, vous?
Ça va très bien, merci. Mme Castonguay, j'ai fait appel à vous pour parler de l'utilisation de la technologie pour la sécurité des aînés dans leur domicile. Parce que c'est un enjeu, hein, la sécurité des aînés à l'intérieur de leur domicile et surtout, j'ai l'impression, depuis quelques années, le gouvernement a effectué un virage où le maintien à domicile devient quelque chose de très important pour le gouvernement. Donc, j'imagine qu'à ce moment-là, la technologie devient notre allié pour assurer la sécurité des personnes en situation de vieillissement, en fait.
Oui, bien en fait, je peux peut-être donner l'exemple d'un des projets que j'ai réalisé. En fait, c'est un projet qui visait à favoriser l'accès aux services essentiels chez les personnes aînées. Puis, vous comprendrez, la recherche avait été réalisée pendant la COVID, donc l'accès aux services essentiels était plus difficile. Oui. Les personnes étaient confinées là, à domicile, donc avoir accès à de l'épicerie, avoir accès à la médication était beaucoup plus difficile. Donc, on s'était dit, on va faire un projet pour favoriser cet accès-là en aidant les personnes à utiliser, par exemple, le service d'épicerie en ligne ou pour pouvoir renouveler sa médication en ligne puis la faire livrer chez soi, là, par exemple. Puis, ce qui était intéressant de voir, c'est que les gens, quand ils découvraient ces services-là, ils se disaient « Ah, ben tu sais, ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant à utiliser », mais certaines personnes se disaient « Ben je suis pas encore rendue là, tu sais, à l'utiliser. Ça pourrait peut-être être utile si j'ai une perte de mobilité, par exemple, ou dans des situations où je pourrais pas y aller moi-même, parce qu'il y avait encore ce désir-là d'aller soi-même à l'épicerie, oui, d'aller soi-même à la pharmacie, puis d'avoir le contact aussi avec les autres personnes, de choisir ses propres aliments, par exemple. Mais dans le fond, ce que je veux apporter comme point, c'est que des fois, il y a toutes sortes de services qui existent en ligne, puis que ça pourrait être vraiment des services à apprendre pour peut-être plus tard, si on n'est pas prêt à les utiliser maintenant.
Et il y a quand même, vous apportez quelque chose d'intéressant, c'est que pour certaines personnes, ben, c'est leur sortie, c'est leur façon de socialiser dans leur journée que d'aller vers des services en personne.
Mais oui, tout à fait. Puis je suis une des premières personnes à militer contre le tout en ligne parce que, tu sais, des fois, on a besoin de parler oui, juste quand on rencontre une situation puis qu'on veut parler à une vraie personne, là, pas juste à une voix robotisée, mais également le fait de pouvoir effectivement aller à l'épicerie, d'aller voir la personne pharmacienne. Puis là, ben des fois, dans ces échanges-là, ben des fois, c'est la seule personne à qui on va parler dans notre semaine, là, dans certains cas. Donc, de garder ce contact-là est quand même très important. Puis on veut pas que le numérique, finalement, devienne un outil d'isolement social.
Puis aussi, j'imagine, une question de santé physique, c'est-à-dire le fait de se mobiliser, de se déplacer, ça aide à conserver, là, j'imagine, des acquis pour les personnes en situation de vieillissement là, qui bougent peut-être un peu moins. Hein.
Oui, ben tu sais, j'ai pas une formation en santé, mais mon premier réflexe serait de dire que oui, en fait, plus on peut demeurer actif, faire des activités, plus ça va être facilitant, puis ça va nous permettre de garder notre autonomie. Puis tu sais, c'est quand on commence à moins faire de choses que ça nous tente moins, hein, aussi.
Donc, oui, c'est une roue qui tourne.
Exactement, mais il y a quand même certaines périodes où si on peut se faire livrer, on avait une grosse tempête de neige hier.
Oui, tout à fait.
Si il nous manque de choses dans le frigo, des choses comme ça, ben tu sais, au moins de pouvoir se faire livrer son épicerie quand l'accès est plus difficile. Puis il peut y avoir, tu sais, à certains moments, soit l'hiver ou à d'autres moments dans l'année où notre accès personnel est plus difficile. Donc, c'est des services qui permettent de pallier là, dans des situations comme ça.
Et si c'est plus difficile là, pour les gens qui sont pas en situation de handicap, qui sont pas vieillissants, là, j'imagine que c'est extrêmement difficile aussi pour les personnes qui sont vieillissantes, là, étant donné que aussi, bon, il y a des problèmes d'accessibilité là, au niveau du déneigement et tout ça, là, c'est pas parfait, là.
Ben c'est ça, tout à fait. T'sais, on peut penser, l'hiver, avec, juste si on a à se promener à pied, puis les trottoirs sont glacés, oui. Par exemple, ça peut être un autre frein. Mais également, il y a peut-être d'autres situations où l'accès au transport en commun ou de pouvoir conduire dans différentes conditions peut être plus difficile. Donc à ce moment, puis tu sais, souvent il y a certaines distances à parcourir aussi. Oui. Donc si on pense à un milieu rural, par exemple, puis s'il y a un service d'épicerie qui pouvait livrer chez moi, qui m'éviterait de faire tout ce parcours-là, ça peut être facilitant. T'sais, par contre, comme je disais, ne mettons pas tout en ligne. Puis quand on développe des outils en ligne, des services en ligne, il faut avoir la préoccupation aussi là, de dans le fond,
de répondre aux besoins, oui, c'est ça.
C'est ça, puis de penser aux personnes utilisatrices à l'autre bout, là, parce que des fois, on peut penser avoir développé le meilleur service au monde, mais tu sais, il peut avoir différents accès à l'utilisation de ce service-là parce qu'un bouton est mal placé, parce qu'on ne voit pas bien tel champ texte ou des choses comme ça. Là.
Donc, effectivement, c'est important de demander l'avis des personnes utilisatrices et j'ai envie de dire de personnes utilisatrices de plusieurs groupes, hein, donc des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des jeunes, des plus vieux, pour qu'on ait une vision d'ensemble, en fait, des besoins puis de ce qui peut marcher ou ne pas marcher dans le cas des services en ligne. Est-ce que vous pensez également que les personnes âgées sont pas assez mises au courant des possibilités de ce qu'il y a, de ce qui est possible de faire en ligne? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu dans votre projet?
Mais je dirais que des fois on a tendance à penser que vu que les personnes sont âgées, ils ont moins connaissance du numérique ou ils ont une moins grande utilisation du numérique, alors qu'il y a quand même une bonne partie de la population là, qui est en ligne. C'est sûr que chez les personnes plus âgées, il y a moins de personnes que chez les personnes plus jeunes, mais reste que les gens sont beaucoup quand même sur le numérique. Je dirais, des fois, c'est avoir en fonction de nos propres besoins qu'on va répondre à nos besoins de certaines façons. Donc, par exemple, si moi, j'ai une préférence pour aller faire mon épicerie moi-même à mon supermarché qui est pas loin de chez moi, mais j'ai pas le réflexe de penser, ah oui, je pourrais me faire livrer mon épicerie. Donc, des fois, ça va aller un peu avec le parcours et les besoins des gens. Quand je rencontre les personnes, ils ont différentes préoccupations. Ça va être, par exemple, les services bancaires, les services financiers, des choses comme ça, les services gouvernementaux. Donc, ça va vraiment beaucoup en fonction des besoins, je dirais. Puis c'est là qu'on découvre qu'il y a ces services-là qui existent, qui peuvent, dans certains cas, nous faciliter la vie.
Outre les services en ligne dont on a parlé, est-ce qu'il y a d'autres technologies qui pourraient aider les personnes en situation de handicap? En situation de vieillissement, là, plus particulièrement?
Oui, mais je suis pas une experte du côté de la domotique et des choses comme ça, mais il peut y avoir, si on prend par exemple les petits robots balayeuses intelligents, il y a différentes choses au domicile par la domotique qui peuvent nous faciliter la vie. Par contre, il faut être prêt aussi là, à utiliser ces outils-là. Puis des fois, il faut apprivoiser là, tous les outils qui sont mis à notre disposition parce qu'on peut avoir des idées préconçues par rapport à ces outils-là. Donc, des fois, c'est d'apprendre les solutions qui existent puis voir comment ça pourrait profiter à notre maintien, notre soutien à domicile.
Parlant du soutien à domicile, étant donné là, les coupures qu'on a vues dans les dernières semaines, dans les derniers mois, est-ce que vous pensez que le soutien à domicile, en ce moment, est un enjeu, est en danger pour les personnes qui sont en situation de vieillissement?
Mais je pourrais pas me prononcer là, par rapport à l'aspect budgétaire des services de soutien à domicile, mais c'est sûr que ça date pas d'hier qu'il y a vraiment on se préoccupe vraiment du soutien à domicile, puis je pense que c'est une bonne chose de soutenir le soutien à domicile puis les différents services là, qui peuvent favoriser le soutien à domicile, puis de continuer dans cette voie-là. Là.
Est-ce qu'il y a assez de recherches et assez de services qui sont offerts ou est-ce qu'il y a un manque à ce niveau-là, selon ce que vous avez vu dans vos projets?
Bien, tu sais, ça, je pourrais pas... Disons, je me garderais une petite gêne. Je me prononcerais pas sur les manques au niveau là, du soutien à domicile.
Non, je parlais plus largement. Est-ce que vous pensez que il y a suffisamment de services pour les personnes en situation de vieillissement au niveau des services en ligne qu'on peut offrir ou au niveau de ce qui est offert là, pour les aider, ou c'est quelque chose qu'on doit encore développer?
Bien, en fait, tu sais, dans le fond, c'est de bien adapter les services qui sont offerts à l'ensemble de la population, mais de s'assurer que les personnes aînées n'aient pas de problème d'utilisation de ces services-là. Donc, entre autres, dans le cadre de mes projets de recherche, on réalise présentement un projet qu'on appelle le bac à sable, qui permet de reproduire des services en ligne dans un environnement qui est sécurisé, comme comme un simulateur de vol, en fait. Donc, on va permettre de vraiment se familiariser avec ces services-là dans un environnement qui est vraiment sécurisé, puis qui n'aura pas d'impact sur la vraie vie de la personne ou sur l'entreprise ou l'organisation qui possède le service. Donc, ça peut être une façon, justement, de permettre aux personnes de se familiariser dans les différentes étapes d'utilisation du service en ligne, mais également de voir qu'est-ce qui peut être problématique dans un service en ligne qui existent, puis pouvoir faire des recommandations aussi là, aux entreprises ou aux organisations qui sont propriétaires de ces services-là.
Est-ce que vous voyez beaucoup d'enjeux au niveau de l'accessibilité pour les personnes qui sont vieillissantes? Est-ce que c'est une tranche de la population qui semble être oubliée au niveau de ce qu'on propose pour des services sur Internet?
Mais tu sais, je dirais que les services que les personnes vont utiliser, c'est pour répondre à leurs besoins, les services qui sont offerts à l'ensemble de la population, comme je le mentionnais. Mais qu'est-ce que je trouve intéressant en faisant tester les services par des personnes aînées, des fois il y a certaines choses pour nous qui étaient des évidences. C'est par exemple telle icône pour nous, ben on comprend que c'est pour télécharger, par exemple. Par contre, tu sais, des personnes qui ne sont pas familières, plus je veux pas généraliser à l'ensemble des personnes aînées là, mais disons une personne, peu importe son âge, qui est pas familière avec les différentes icônes, avec les différentes façons d'utiliser un site web, par exemple, pour un service en ligne, ben on se pose beaucoup de questions, puis des fois en écoutant les gens, ben on se dit finalement c'était pas une évidence, puis tu sais, il y aurait peut-être lieu à améliorer la façon de présenter les choses ou à mettre plus d'informations pour que les gens puissent s'y retrouver finalement.
En terminant, il y a deux autres projets qui ont attiré mon attention là, sur votre site web là, du Centre collégial d'expertise en gérontologie. On parlait de façonner la bienveillance en RPA et aussi d'un projet là, pour les proches aidants. Je sais que c'est des projets là, qui sont en cours dont vous n'avez pas les résultats encore, mais pouvez-vous nous parler un peu de ce qui s'enligne pour ces deux projets-là?
Mais c'est des projets qui sont menés par mes collègues. Donc, tu sais, je suis pas dans le fin détail là, de ces différents projets-là. Pour le projet de bien-traitance, ben, c'est vraiment pour, dans le fond, de favoriser la bien-traitance là, dans les différentes RPA du Québec. Puis, ma collègue là, développe de super de beaux outils aussi pour soutenir la prochaine danse. Puis, entre autres, le maintenir, tu sais, demeurer amoureux malgré la situation de proche aidance, par exemple, ou quand on a un enfant qui ne pourra jamais devenir autonome, qui aura plus de difficultés à devenir autonome, ben il y a différentes réflexions aussi à faire. Donc, ma collègue développe des outils pour soutenir ces personnes-là, puis dans le fond, toujours favoriser un bien-être, une qualité de vie.
Et puis donc, vous avez plusieurs projets au centre d'expertise en gérontologie. De votre côté, là, sur quoi vous vous penchez dans les prochains mois?
Bien, moi, de mon côté, en fonction là, de mes champs d'expertise, bien, moi, je m'intéresse beaucoup à l'inclusion numérique des personnes aînées. Donc, par des projets, là, comme je le mentionnais, pour soutenir le développement de la compétence numérique, mais également sensibiliser les entreprises et les organisations propriétaires des services de vraiment penser les outils ou les solutions avec les personnes aînées, puis s'assurer qu'elles répondent à leurs besoins et qu'elles soient adaptées à leur réalité. J'ai également des projets là, sur les liens intergénérationnels, donc entre autres au niveau là, de la cohabitation intergénérationnelle en résidence pour personnes aînées. Ça, c'est un projet qui est soutenu par le secrétariat à la jeunesse du Québec. Il y a un colloque aussi à venir là, sur le bénévolat dans le cadre du colloque de l'ACFAS au mois de mai à l'UQTR. Donc oui. Ça, c'est différentes choses sur lesquelles je travaille.
Pour les gens qui veulent plus d'informations, on peut voir votre site Internet là, du Centre collégial d'expertise en gérontologie. Hein. Les projets sont indiqués, puis on peut voir aussi les anciens projets là, qui ont donné des résultats quand même qui sont très intéressants là, si on s'intéresse à ces enjeux-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on vous souhaite bonne chance dans la suite de vos projets.
C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci, au revoir.